oui, il y a de l'argent, il y a du temps, mais aussi tout l'engagement humain derrière ça.
Bon lundi. Plus de 24 heures après l'annulation du défilé de la fierté, ça fait encore réagir. Aujourd'hui, certaines révélations jettent un nouvel éclairage sur la désorganisation au sein de Fierté Montréal. Et on comprend encore plus l'ampleur des conséquences de cette annulation. Évidemment, pour les milliers de touristes étrangers qui sont venus pour participer à l'événement, mais aussi pour les commerçants et des commanditaires pour qui tout ça a des conséquences financières. Sans oublier que des fonds publics ont été débloqués pour permettre l'organisation du défilé et que 300 policiers ont été mobilisés pour assurer sa sécurité. Tout ça pour rien. On en parle avec ma collègue Camille Lorrain-Desjardins. Bonsoir, Camille.
Bonsoir, Étienne.
Fierté Montréal là, répète que c'est un simple oubli qui a forcé donc l'annulation d'un des plus gros événements de l'été là, dans la métropole.
Oui, en fait, il semble qu'on ait embauché les fameux agents d'accueil, c'est-à-dire les gens qui doivent assurer la sécurité pendant le défilé, mais il semble qu'on ait oublié de les assigner à l'événement de dimanche. Alors aujourd'hui, on a appris qu'il y avait un comité qui avait été formé avec des membres du conseil d'administration de Fierté Montréal pour faire la lumière sur ce qui s'était passé. Ce comité-là devait rencontrer, là, il y a quelques minutes, Valérie Plante, la ville de Montréal, pour faire le point, pour comprendre un peu ce qui s'était passé. Hier, Valérie Plante avait exprimé son mécontentement. Elle avait dit que si elle avait su qu'on manquait d'effectifs, bien qu'elle aurait agi en conséquence. Puis d'ailleurs, je vous rappelle que Montréal a quand même financé à hauteur de 600 000 $ les événements de Fierté Montréal. Il y a aussi le ministère du Tourisme du Québec qui a alloué plus de 1 million de $ aux festivités, puis qui aimerait bien avoir une rencontre justement avec le comité de Fierté Montréal. En coulisses, on parle de peut-être organiser un autre événement cet été, mais vraisemblablement, ça ne sera pas un défilé.
Bien oui, ça impliquait beaucoup d'argent. Et puis pour des acteurs communautaires, justement des petits organismes, de participer au défilé aussi, pour eux, c'était coûteux, là.
Bien oui, évidemment, on n'a qu'à penser à ceux qui participent au cortège avec des chars allégoriques. Donc, moi, j'ai parlé un petit peu plus tôt au directeur général de JAG. C'est un organisme en Montérégie qui œuvre auprès des personnes LGBTQ+. Et donc, il me disait que ça faisait des semaines là, qu'on était sur l'organisation de cet événement-là. On devait avoir un char allégorique, une petite voiturette de golf, un cortège de 80 personnes. Puis on a appris à la toute dernière minute que ça n'aurait pas lieu. On a dû décommander la voiturette, tout ça. Donc, ça fait beaucoup de choses. Évidemment, l'organisme a organisé un petit événement impromptu, comme plusieurs l'ont fait hier, d'ailleurs. Je vous propose d'écouter Raphaël Provost.
Ça fait des semaines qu'on y travaille parce que c'est un événement qui, depuis un an, se met en branle. Mais nous aussi, de notre côté, il fallait qu'on s'organise. Donc, on avait des gens à l'interne qui n'étaient dédiés pratiquement qu'à ça. Donc, on avait beaucoup de fournisseurs qu'on avait contactés. C'est beaucoup de gens à mobiliser aussi parce qu'on voulait vraiment être présents et présentes. Donc, on avait justement de la location, du temps de travail, du matériel. La journée même, on a couru un peu partout. On était, nous, tout le week-end en ville aussi parce que on a des gens d'un peu partout qui partaient de la Montérégie.
En terminant, bien, Raphaël Provost me disait qu'il ne cherchait pas nécessairement à trouver un coupable, mais peut-être qu'à l'avenir, travailler tous les organismes ensemble, ça pourrait aider à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'angle mort comme ça.
Merci beaucoup, Camille. Et Gabrielle Rondy, directrice de la Société de développement commercial du village, est avec nous. Bonsoir, merci d'être là.
Bonsoir.
Bon, comment vos membres, vous représentez des commerces dans le village, comment ils ont réagi à cette annulation-là? Quelles conséquences ça a eu sur eux?
C'est sûr que c'est avec beaucoup de tristesse qu'on a appris ça hier matin en même temps que tout le monde, là, via les réseaux sociaux, via les alertes. Tout le monde a appris ça avec beaucoup de tristesse. Les commerçants du village, ça fait des mois qu'ils se préparent à ça. C'est la plus grosse semaine économiquement parlant pour les commerçants du village, surtout après deux années de pandémie qui ont été extrêmement difficiles sur le village, sur les commerçants. C'est évident que tout le monde avait extrêmement hâte à cet événement-là qui est important. Oui, économiquement, mais symboliquement aussi, oui. qui a beaucoup de valeur.
Parce que votre organisme essaie de redorer un peu l'image du village. Après deux ans de pandémie, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Mm-hmm. C'est une occasion ratée un peu, là. Et puis, est-ce que ça peut avoir des conséquences à long terme pour les prochaines années, là?
C'est sûr, mais je dirais que dimanche, en fait, c'est là qu'on a vu toute la force puis toute la résilience des entreprises du village. Tout le monde a transformé cette énergie-là en positivisme. Tout le monde a sorti les haut-parleurs dehors. Ils ont appelé les drag queens qu'ils connaissaient. Ils ont sorti les kiosques. L'heure était vraiment à la fête. On a vraiment transformé ça en énergie positive. C'était vraiment beau, en fait, de voir tous les organismes communautaires qui sont venus quand même faire la fête, qui sont venus défiler. Il y avait des tambours. Il y avait à pied levé qui a dansé pendant presque 2 heures à 42 degrés à la place du village. C'était quand même beau de voir ça.
Mais Fierté Montréal nous dit avoir oublié donc de mobiliser, de former, de recruter environ 80-100 bénévoles. Comment vous recevez ces explications-là?
Mais c'est sûr qu'on va attendre de voir vraiment comment Fierté Montréal va faire la lumière sur ça, parce que je vous cacherai pas, vous le savez, depuis les 24 dernières heures, on a entendu plusieurs versions. La version officielle a changé, donc on va vraiment attendre de voir comment la lumière va être faite sur ça. Pour l'instant, c'est sûr que c'est extrêmement décevant, mais il y a eu du monde dans le village. Au moins, les gens, ils ont entendu notre appel. Nous, sur les réseaux sociaux, on avait invité les gens à venir montrer leurs couleurs puis à venir célébrer dans le village. Puis au moins, notre appel a été entendu hier.
Mais il reste que Fierté Montréal a reçu de l'argent, des subventions d'argent public pour organiser ce défilé-là. Oui. Votre organisme en reçoit aussi. Il faut livrer la marchandise. Si on le fait pas, est-ce qu'on devrait retirer cet argent-là que Fierté a reçu?
La SDC ne reçoit pas directement d'argent. On a des activités en partenariat, comme à la place du village, on a des activités prévues. Mais c'est évident que Fierté Montréal va devoir rendre des comptes aux divers paliers de gouvernement à qui ils ont donné des sous, et aussi aux organismes communautaires, comme disait la personne en entrevue avant moi, que ça fait des mois qu'ils se préparent aussi pour cet événement-là. C'est sûr qu'ils vont devoir rendre des comptes à ces personnes-là.
Et qui ont beaucoup moins d'argent des organismes communautaires, qui en auraient peut-être besoin de ces sous-là. En terminant, là, Fierté Montréal, Simon Gamache, son président, est-ce que c'est encore l'homme de la situation après tout ce qu'on a vu?
C'est sûr que Fierté Montréal, c'est une grosse équipe et c'est un gigantesque navire. C'est les festivals, c'est pas les festivals, c'est les spectacles de musique, mais c'est aussi des conférences, c'est des espaces sécuritaires pour la communauté, c'est la parade, c'est beaucoup d'événements. C'est peut-être un trop gros navire, je sais pas, mais c'est sûr qu'il va... Puis aussi, il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe de Fierté Montréal dans les dernières années. Je pense que c'est peut-être cette instabilité-là qui a causé ce qu'on a vu hier. Est-ce que c'est la bonne personne? C'est le conseil d'administration de Fierté Montréal qui pourra décider s'il est la bonne personne. Nos relations ont toujours été très bonnes, nous, à la SDC avec Fierté Montréal. On a plusieurs événements programmés avec eux pendant la semaine de la Fierté, mais même au-delà, c'est important pour Fierté. Là.
Et même Fierté parlait même d'accueillir éventuellement la World Pride, un grand événement LGBT avec un gros défilé, puis avec des milliers d'étrangers, de touristes. Là, on se demande comment ça va être reçu, leur candidature, s'ils veulent ça, éventuellement.
C'est évident que ça va avoir des répercussions sur l'image de Montréal. Puis même nous, dans le village, on va avoir des travaux qui s'en viennent aussi dans les prochaines années. Donc, World Pride peut-être, mais dans quelques années.
Madame Rondy, merci beaucoup.
Merci.
La semaine passée, on a suivi cette affaire du tireur qui a fait 3 victimes. Voilà que la coroner en chef, maître Pascal Descaries, a ordonné qu'une enquête publique soit menée pour faire la lumière sur le triple homicide survenu à Montréal et sur le décès du principal suspect, Abdullah Cheikh. L'enquête sera dirigée par la coroner maître Jeanne Kamel. Mardi et mercredi dernier, on le rappelle, 3 hommes ont été ciblés aléatoirement par le tireur dans l'ouest de Montréal et à Laval. Le suspect a été abattu par les policiers jeudi. Maintenant, les suites de la guerre en Ukraine, la Banque mondiale a annoncé aujourd'hui une aide supplémentaire de 4,5 milliards de dollars pour l'Ukraine. Tout ça alors que la zone de la centrale de Zaporijjia inquiète vraiment les autorités ukrainiennes. On en parle avec Sabrina Rivet. Bonsoir.
Bonsoir, Étienne.
Sabrina, maintenant, l'Ukraine demande même la démilitarisation de cette zone.
Oui, effectivement. Et d'ailleurs, il y a aussi les États-Unis qui ont demandé à la Russie d'arrêter vraiment toute activité militaire dans et autour des centrales nucléaires, dont celle de Zaporijjia. Donc, il faut dire que c'est quand même la plus grande d'Europe et elle est tenue, donc, évidemment, par l'armée russe. Il y a aussi une réaction du secrétaire général de l'ONU. Il a dit carrément que toute attaque envers la centrale nucléaire est carrément suicidaire. Il souhaite l'arrêt des opérations militaires autour de celle de Zaporijjia pour que l'Agence internationale de l'énergie atomique puisse accéder au lieu. Et il y a même le patron de l'agence nucléaire ukrainienne, Energoatom, qui a aussi demandé la démilitarisation et qu'une équipe de casques bleus soit sur place, Étienne.
Et là, aujourd'hui, il y a un tankiste russe qui a été condamné pour avoir tiré sur un immeuble résidentiel ukrainien.
Oui, voilà. Donc, il a été condamné à 10 ans de prison. Donc, c'est un homme qui aurait donc réalisé donc des tirs vers un bâtiment résidentiel de 11 étages où il y avait des civils. Donc, le sergent Mikhail Kulikov a été fait prisonnier au début de l'invasion russe de l'Ukraine. Et par ailleurs, également, j'aimerais terminer en vous parlant, en fait, de ce fameux navire qui a quitté la semaine dernière, donc l'Ukraine, avec des tonnes de maïs à l'intérieur. Eh bien, Kiev nous a confirmé aujourd'hui que le tout est arrivé en Turquie. Donc, ces tonnes de maïs qui sont arrivées à destination. Et même, on dit, il y a le ministre ministère des Affaires étrangères qui a dit que c'est un message un peu d'espoir pour les gens, notamment qui résident en Afrique et également en Asie, du fait d'avoir reçu donc comme ça des céréales, parce qu'on sait que ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois même, que les céréales étaient donc prises dans des ports, le port d'Odessa notamment, donc au sud de l'Ukraine. Donc ça, ça reste que c'est une bonne nouvelle. Également, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'il y a deux autres navires qui sont partis aujourd'hui, notamment avec du maïs, mais aussi avec des graines de soja. Alors, on voit que tranquillement, mais sûrement, il y a des navires qui sont en mesure de quitter le sud de l'Ukraine, d'être dans la mer Noire et de pouvoir donc aller ailleurs et de pouvoir exporter, en fait, donc toutes les ressources, en fait, qui sont offertes en Ukraine. On nous disait souvent que c'était un peu le grenier alimentaire, l'Ukraine. Donc, vraisemblablement, ce sont des bonnes nouvelles quand même pour l'Ukraine.
Absolument. Merci beaucoup pour cette mise à jour.
Ça fait plaisir.
Maintenant, jeu du Commonwealth. Le Canada a conclu les Jeux avec la troisième place au tableau des médailles avec 92 médailles, dont 26 d'or. L'Australie remporte la compétition avec 178 médailles, suivie de près par l'Angleterre et ses 176 médailles. La nageuse de 15 ans, Summer McIntosh, a été la Canadienne la plus décorée des Jeux avec deux médailles d'or, trois d'argent et une de bronze. C'est Holly Naughton, première Canadienne de l'histoire à monter sur le podium des Jeux du Commonwealth en squash, qui a été la porte-drapeau du Canada. Aux États-Unis, ça a été long et compliqué, mais après un an et demi, les démocrates ont finalement réussi à faire adopter leur plan sur le climat, un plan très ambitieux de plus de 430 milliards de dollars. Bon, on s'en doute, les républicains ont tous voté contre et aujourd'hui, bien, ils crient au scandale. Il reste que c'est toute une victoire pour Joe Biden. On va aller en parler avec Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine. Bonsoir, M. Lavoie.
Bonsoir.
On trouve quoi là, dans ce plan vert pour s'attaquer concrètement au changement climatique?
C'est certainement l'engagement vert concret, plus qu'un communiqué de presse, le plus significatif de l'histoire. Vous avez pour à peu près la bagatelle de 400 milliards de dollars sur les 10 prochaines années qui se divise en gros en deux sortes d'incitatifs fiscaux. D'une part, pour favoriser tous ceux qui produisent des choses qui permettent de produire davantage d'énergie électrique, et les voitures électriques vont faire partie de ça. Et de l'autre côté, vous avez des aides fiscales directes aux consommateurs pour qu'ils achètent des choses qui consomment moins d'énergie ou qui consomment que de l'énergie propre, donc pas d'énergie à base d'hydrocarbures comme des voitures électriques, des électroménagers, les fameuses thermopompes. Rendre les maisons américaines beaucoup plus vertes qu'elles ne l'étaient ou qu'elles ne le sont. Alors, ça reste très, très majeur et significatif.
Le plus gros investissement des États-Unis, justement, pour faire face au changement climatique, c'est incroyable, mais ça a été difficile à adopter. 18 mois de débat, c'est quand même toute une leçon. Ça nous dit peut-être qu'un programme politique vert, ça peut quand même marcher?
Bien, à partir du moment où on considère que les vœux pieux, c'est bien gentil, mais ça ne fait pas une loi, ça. Une loi capable d'être acceptée. Et pour que ce soit accepté, il y a aussi des sous pour allonger la vie de certains pipelines. Il y a aussi des sous pour un peu d'énergie à base de carbone, parce qu'on a besoin d'une transition un peu plus longue, ne serait-ce qu'au niveau politique. Alors, il y a une grande leçon de maturité là-dedans, au lieu de que évaluer, je dirais, la pureté des plans verts qui sont présentés, la capacité de délivrer politiquement. C'est ça qui a permis à ce plan-là de voir le jour, parce que même si les démocrates ont la majorité au Sénat, encore faut-il que tous les sénateurs démocrates soient d'accord, et il y en avait un entre autres, Joe Manchin, qui lui est élu dans un État très conservateur, remporté par Donald Trump par 45 points d'écart, qui produit du charbon. Bien, lui, pour avoir son vote, il fallait y en donner un peu, mais au général, pour donner un peu, vous savez, on dit souvent « le mieux est l'ennemi du bien », et c'est ce que Joe Biden a fait ici.
Mais la question, c'est est-ce que c'est quand même dans la poche, là, tout ça va pouvoir aller de l'avant ou il y a encore des blocages possibles?
Normalement, ça devrait aller de l'avant, mais il y a encore des étapes possibles. Parce que pour qu'une loi existe, pour que quelque chose aille de l'avant aux États-Unis, il faut que le Sénat dise oui. C'était l'étape la plus difficile, ça s'est fait. Ensuite, il faudra que la Chambre dise oui. Elle a promis de le faire, et elle est à majorité démocrate. Et ensuite, vous allez voir le président Biden courir pour se dépêcher de signer, parce que ça prend l'accord du président aussi.
Et tout ça à quelques mois des élections de mi-mandat. C'est quand même incroyable comme victoire, hein?
Et c'est très important parce qu'on évalue la force d'une administration présidentielle à sa capacité de faire adopter des choses au Congrès. Le président, c'est l'homme le plus puissant du monde s'il en a la permission. Et cette permission-là lui vient du Congrès.
Bon, ben merci beaucoup, M. Lavoie, d'avoir été là.
Au plaisir.
Maintenant, pendant la pandémie, bien, certaines activités ont connu un engouement sans précédent. Ça a été le cas pour le nautisme au Québec, qui a vu son nombre d'adeptes augmenter. Et près de la moitié de ces nouveaux conquis ont même acheté des bateaux à moteur. Avec la hausse du prix de l'essence et des taux d'intérêt et l'ouverture des frontières, est-ce que l'intérêt est toujours aussi fort? Fanny Lachance-Paquette est allée voir à la marina de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Disons que cette année, on l'utilise beaucoup moins avec le coût de l'essence. Disons qu'on fait plutôt du camping stationnaire à la marina.
Ça peut coûter combien pour un bateau comme celui-ci remplir en essence?
Oh, c'est à peu près 1 800 à 2 000.
On constate qu'il y a une diminution du passage au niveau du quai à gaz. Après, maintenant, depuis l'ouverture des lignes cette année, c'est vrai que nous avons, comparément à ces deux dernières années, une hausse de la fréquentation des bateaux de passage. Les gens font autre chose. Je pense que le gaz y est pour beaucoup, quoi. Le prix du gaz y est vraiment pour beaucoup.
A little bit less, but I still go out pretty often. Right now is around 550. Last year was around 300.
Non, ça nous a pas freiné. C'est sûr qu'on fait plus attention, mais ça me freine pas. Je fais mes activités quand même. C'est temporaire. De toute façon, le prix de l'essence, ça restera pas comme ça non plus. Là. Ça va baisser.
Ben, on le souhaite.
Mais on souhaite que ça baisse. Mais...
Il y a une baisse et puis elle peut être expliquée par l'augmentation du coût de la vie, l'incertitude qui va avec le contexte économique actuel. On peut parler aussi de bon contexte post-pandémique, vous le savez bien. Les taux d'intérêt peuvent jouer aussi parce qu'ils ont augmenté. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement majeurs dans l'industrie, là. Donc, il y a des gens qui, après avoir attendu longtemps, se découragent et annulent leur commande.
On a 200 emplacements disponibles et bon, on a réussi, on est plein, on va dire, à 95%.
Est-ce que ça ressemble à l'engouement qu'il y avait au cours des dernières années?
Ben, pour nous, ça y ressemble beaucoup au niveau du taux de remplissage, on va dire, de la marina. Maintenant, l'engouement est un peu différent. On note une diminution du trafic sur le Richelieu.
En temps de pandémie, là, les gens allaient moins à l'extérieur, donc ils allaient sur les plans d'eau de façon locale et puis ils s'achetaient des embarcations. Donc, si on regarde les ventes de bateaux de moteurs hors bord, donc on a une réduction d'environ 18 % donc entre les ventes de l'année dernière et celles de cette année.
Premier arrivé, premier qui l'achète.
Ça va vite, c'est un marché encore en demande.
Ça va très vite, oui, mais il y a un ralentissement. Il y a un certain ralentissement.
Oui, il y a un ralentissement parce qu'on a une autre à vendre.
Ça se vend pas vite?
Non!
Oui, certains voudraient des baisses de prix de l'essence, mais pour l'instant, ils sont hauts, très hauts les prix. Mais pas partout. Pendant qu'à Montréal, vous payez autour d'1,88 $, bien à Ottawa, le prix moyen s'élève à 1,63 $. Il est même possible de payer 1,50 $ à certaines stations. On va aller faire de l'ordre dans tout ça avec Nicolas Ryan, porte-parole de CA Québec. Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir.
C'est quoi là, le portrait au Québec là, au niveau des prix aujourd'hui? Là?
Oui, bien quand on regarde les prix, quand on se compare, il y a quelques semaines quand même, on est heureux de voir que le prix a commencé à chuter. On a vu récemment aux États-Unis aussi là, une séquence de plus de 35 jours consécutifs de baisse des prix à la pompe. Alors enfin, un peu là, de repos pour les gens qui vont faire le plein au quotidien ou qui vont une fois par semaine. Mais en effet, par contre, quand on regarde avec nos voisins ontariens, eh bien malheureusement, de leur côté, là, le prix est beaucoup plus bas, on l'a vu.
Oui.
Mais ça s'explique bien évidemment.
Oui, comme c'est quoi les raisons justement?
Oui, bien quand on regarde le gouvernement ontarien en fait a pris la décision de baisser sa taxe sur l'essence là, d'environ là, 6 ou 7 sous, ce qui fait là, qu'on a une différence de taxe entre le Québec et l'Ontario en fait d'environ 9 sous, 10 sous présentement, pardon. Et l'Ontario aussi s'est retiré du marché du carbone, ce qui amène une autre différence de prix d'environ 10 sous. Alors, quelqu'un qui va faire le plein en Ontario peut s'attendre à payer là, en moyenne à peu près 20 sous de moins qu'au Québec, et ça jusqu'au 31 décembre prochain.
Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on paye plus cher au Québec? Est-ce que le contexte international a encore un impact chez nous?
Bien, les prix de l'essence, en fait, c'est pas au Québec que ça se décide, hein, en effet. Là, souvent, les gens vont dire, voyons, non, je paye tel prix, mais c'est un marché qui est mondial. Donc oui, on doit suivre ce marché-là. Les détaillants, eux, doivent acheter ce pétrole-là qui arrive là, souvent par les ports d'ailleurs, que ce soit le port de New York ou tout ça. Donc, le prix que ces détaillants-là vont payer à la pompe, on appelle le coût d'acquisition quotidien. Et à ce coût d'acquisition quotidien, souvent, on va y ajouter une petite marge. et les détaillants sur cette marge-là, eux, doivent payer aussi leur coût d'exploitation. Alors, il y en a beaucoup qui disent souvent qu'ils ont l'impression de se faire voler à la pompe ou de se faire voler dans leur propre poche. Mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de détaillants, en fait, qui ont des marges, somme toute, assez raisonnables. Et c'est leur moyen de gagner leur vie aussi.
Est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse quand même des prix dans les prochains mois?
C'est ce qu'on souhaite. Si on avait une boule de cristal, justement, à la blague, je m'ouvrirais moi-même une station-service et je ferais une prévision des prix de l'essence. Malheureusement, on ne sait jamais qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Alors, on suit cette tendance-là. Et nous, à CA Québec, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque jour, on observe justement les moyennes pour l'ensemble des régions de la province. Et on offre un outil qui s'appelle Info Essence qui permet aux gens de constater, en fait, si justement le prix qui est à la pompe, affiché à la pompe, est plus élevé que ce qu'on appelle le prix réaliste qui tient en compte le coût d'acquisition et une marge somme toute normale sur les 52 dernières semaines.
Il y a quelques temps, vous nous disiez on a peur qu'il y ait des gens qui voyagent moins peut-être à cause des prix de l'essence, mm-hmm. le reste de l'inflation un peu partout. Est-ce que ça a été le cas? C'est ce que vous constatez?
Oui, on avait demandé aux gens, là, au début juin dernier, on avait sorti nos résultats et on avait appelé ça un impact marginal sur les intentions. Donc, les gens ont voyagé énormément. Ça faisait 2 ans pour la plupart des gens qu'ils se privaient, qu'ils étaient restés à leur domicile. Alors, cette année, c'est sûr et certain, on a vu beaucoup de gens sortir de la maison. Là où le prix de l'essence a eu un impact, là où l'inflation aussi peut avoir eu un impact, c'est une fois rendu à destination. Donc, peut-être des voyages un peu plus sédentaires, un peu moins de dépenses en restauration, en activité sur place.
Bon, ben merci beaucoup, Nicolas Ryan de CA Québec, d'avoir été là. À bientôt.
Merci.
Et Sabrina Rivet est à la barre du 22h ce soir. Bonsoir.
Salut, Étienne.
Bon, d'abord, macabre découverte là, dans Hochelaga, à Montréal.
Hein? Ah, c'est complètement horrible. On parle d'un homme qui a été retrouvé dans une benne à ordures vers 8h50 ce matin. C'est un éboueur qui a fait la macabre découverte durant donc sa collecte des déchets. Et puis, il y a une enquête du SPVM qui est en cours pour comprendre les circonstances de cette mort pour l'instant, qui est qualifiée de suspecte, mais quand même, toute une découverte là, ce matin.
Autre triste nouvelle dans le monde artistique, la chanteuse et actrice Olivia Newton-John, qui est décédée.
Oui, qu'on a connu très bien dans le film Grease. Elle est décédée à l'âge de 73 ans. C'est ce qu'a annoncé son mari dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Je le disais, on la connaît notamment pour Grease. Ouais. Justement, on peut aller écouter un petit extrait. C'est vraiment une chanson qui reste dans la tête. La comédienne est décédée, ce qu'on nous dit, paisiblement dans son ranch dans le sud de la Californie ce matin, entourée par sa famille et ses amis.
Et aux 22h?
Bon, on va revenir sur le défilé de la fierté gay. Je sais que ça fait énormément parler. On va en parler avec notre collaborateur, Victor Henriquez, qui va nous analyser, en fait, toute cette situation-là au niveau des relations publiques.
On écoute ça ce soir, 22h. Merci d'avoir été là. Passez un bon souper. On se retrouve demain. Bye-bye.